VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30, temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 18 juillet 2017, Morgan Guerriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, au Gabon, la Cour constitutionnelle a décidé d'un nouveau report des élections législatives. Traité de l'amitié et de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les deux pays réaffirment leur volonté de lutter ensemble contre le terrorisme. Au Nigeria, des dignitaires Kanouri appellent Boko Haram à négocier avec le gouvernement. Et puis, accord sur le nucléaire iranien, le président américain décide finalement de poursuivre la politique de son prédécesseur. Retrouvez Yacouba Ouedraogo à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a décidé d'un nouveau report des élections législatives. On fait le point avec Lionel Gaïma.
Les élections des députés de l'Assemblée nationale doivent être organisées au plus tard au mois d'avril 2018 au lieu du 29 juillet comme initialement prévu. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle gabonaise. Elle estime que la prise en compte de réformes électorales proposées par le dialogue politique nécessite ce report. Le député de la 12e législature en place depuis février 2012 et élu pour 5 ans resteront donc en fonction jusqu'en avril 2018. Le Premier ministre Emmanuel Issozengonde avait demandé à la Cour un report de 24 mois des élections législatives. Il estimait le temps nécessaire pour appliquer les réformes électorales du dialogue politique entre 18 et 24 mois. M. Issozengonde soutenait que la Constitution ne permettait pas une réforme électorale moins d'un an avant l'échéance prévue. La Cour a décliné ce point avançant que cela ne s'applique pas en la matière, les élections législatives ayant été une première fois repoussées en décembre 2016. Le dialogue politique qui a eu lieu en avril et mai a été voulu par le président Ali Bongo, mais rejeté par son rival Jean Ping.
Au Nigeria, des dignitaires Kanouri ont appelé les djihadistes à négocier avec le gouvernement pour mettre fin à leur insurrection sanglante. Cette ethnie du nord-est du pays est majoritaire au sein de Boko Haram. On fait le point avec Eric Manirakiza.
L'appel a été lancé vendredi. Un groupe d'influence de l'ethnie Kanouri composé de militaires et de notables à la retraite, réunis au sein du Forum des Anciens du Borno, estime qu'il est temps que les djihadistes déposent les armes pour se repentir et rejoindre le reste de la société. Le même groupe indique que le gouvernement peut négocier la fin de l'insurrection en utilisant la même méthode qui a abouti à la libération de certains captifs, dont une centaine de lycéens de Chibok. Mais cette initiative suscite moins d'engouement. Certains observateurs pensent que l'appel vise à préserver des intérêts ethniques. Abdoulaye Bouawawase, expert en sécurité, estime que les notables Kanouri veulent tâter le terrain auprès des autorités. Un responsable des milices civiles engagées aux côtés de l'armée contre Boko Haram a qualifié cette proposition de mauvaise foi. Abba Hadji Kali considère les djihadistes comme des ennemis jurés de la nation.
Au Niger, Baba Alpha, journaliste d'une chaîne de télévision indépendante, a été condamné à 2 ans de prison. Les autorités l'accusent d'avoir usurpé la nationalité nigérienne. Selon Genia Moulissa, nous en dit plus.
Baba Alpha et son père, âgé de 70 ans, ont été condamnés à 2 ans de prison et à 10 ans de privation de tout droit civique et politique. Les deux prévenus sont également interdits de tout emploi public et leurs actes d'état civil jugés faux seront confisqués et détruits. Baba Alpha et son père sont écroués depuis le 3 avril à la prison de Niamey, initialement pour faux et usage de faux en écriture, en lien avec la nationalité nigérienne du journaliste. Les faits ont ensuite été requalifiés en usage de faux. Son avocat, Maître Boubacar Mossi, a déclaré que c'est la mort civile qui a été prononcée contre eux, car ils sont déclarés apatrides. Il a affirmé que Baba Alpha, né et grandi au Niger, n'a d'autre nationalité que la nationalité nigérienne. L'avocat a annoncé qu'il allait faire appel de la décision qu'il juge non conforme à la loi nigérienne et aux conventions internationales ratifiées par le Niger. Selon la presse, Baba Alpha serait de nationalité malienne et aurait acquis la nationalité nigérienne de manière irrégulière.
Côte d'Ivoire, le procureur du tribunal d'Abidjan a requis 10 ans de prison contre Assoua Adou, un ancien ministre de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, arrêté en janvier 2015. Il avait été inculpé pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État pour des faits datant de 2012-2013. En Guinée, le chanteur de reggae Eli Kamano affirmait aujourd'hui être toujours en garde à vue. Il était arrêté hier pour avoir participé à une manifestation non autorisée contre le gouvernement. Les organisateurs, dont Eli Kamano, ont été inculpés d'attroupement interdit sur la voie publique, a indiqué à l'AFP l'avocat du chanteur. Eli Kamano avait appelé à une marche contre les appels à modifier la constitution pour permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Urgence humanitaire au Congo-Brazzaville. Les autorités des Nations Unies lancent un appel de fonds de 23 millions de dollars pour venir en aide à 138 000 personnes. Les violences et l'insécurité qui secouent le département du Poul depuis 2016 ont provoqué à ce jour le déplacement de près d'une personne sur trois de ce département et plus de la moitié des familles sont en situation d'insécurité alimentaire. Afrique du Sud, l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, demande la démission du président Jacob Zuma, empêtré dans une série de scandales politico-financiers. Monsieur Gordhan, ardent pourfendeur de la corruption, démogé fin mars, se joint ainsi à plusieurs personnalités du Congrès national africain, le parti au pouvoir, dont des combattants historiques de la lutte contre l'apartheid et des chefs d'entreprise qui réclament le départ du chef de l'État. Ces déclarations interviennent alors que le pays commémore la journée Mandela, qui marque la date de naissance du premier président sud-africain démocratiquement élu, décédé en 2013.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump, qui avait promis durant sa campagne électorale de déchirer l'accord sur le programme nucléaire iranien, a décidé lundi de le préserver et de poursuivre pour le moment la politique de son prédécesseur Barack Obama. Les précisions de John Lindon.
Donald Trump l'a toujours pensé, l'accord sur le nucléaire iranien est le pire accord jamais paraphé par les États-Unis. Il devrait donc être déchiré selon lui. Mais hier soir, son administration a admis que Téhéran remplissait les conditions du texte prévoyant un contrôle international de la nature pacifique du programme nucléaire en échange d'une levée progressive des sanctions qui étranglent l'économie iranienne. Depuis le 16 janvier 2016, date de l'entrée en vigueur de cet accord, l'administration américaine doit tous les 90 jours le certifier auprès du Congrès, c'est-à-dire attester que Téhéran en respecte les termes. La décision de l'administration Trump était largement attendue, Washington ne voulant pas risquer de se mettre à dos les autres pays signataires. Bien avant la Maison-Blanche, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait en juin dernier félicité l'Iran pour le respect de ses engagements. Le gouvernement américain a toutefois annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran pour son programme de missiles balistiques et ses actions au Moyen-Orient.
Toujours ici aux États-Unis, réforme du système de santé. Le président Donald Trump accuse les démocrates d'être en grande partie responsables de l'échec de la mesure emblématique de sa campagne électorale. Tous les démocrates nous ont laissé tomber, a écrit Donald Trump sur Twitter. Le projet de réforme a pourtant subi le blocage par des sénateurs de son parti. Boycott de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Pour la troisième journée consécutive, les fidèles musulmans ont déserté ce lieu saint de l'islam. Ils protestent contre l'installation par Israël de détecteurs de métaux après une attaque qui a coûté la vie à deux policiers. En bref, l'Égypte a annoncé qu'elle mettrait fin cette semaine aux visas à l'arrivée pour les citoyens du Qatar accusés par le Caire et d'autres pays arabes de soutenir le terrorisme. Les forces libanaises vont lancer une opération près de camps informels de réfugiés à la frontière syrienne. Raison évoquée par le Liban, les troupes libanaises ont été attaquées par des réfugiés syriens. Lutte contre le groupe État islamique aux Philippines. Le président Rodrigo Duterte souhaite prolonger de 5 mois la loi martiale dans le sud du pays pour mater un soulèvement djihadiste. Et enfin, il s'agit d'un des pires scandales à frapper l'Église catholique en Allemagne. Plus de 500 enfants de chœur ont été victimes de sévices, dont des viols entre 1945 et le début des années 90. Ça s'est passé à Ratisbonne, selon un rapport d'enquête. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La l'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, la Minute Éco.
Le Niger a ordonné la fermeture définitive de plusieurs sites aurifères artisanaux dans le sud-ouest du pays où travaillent au moins 20 000 orpailleurs nigériens mais aussi burkinabés, maliens et sénégalais. D'après un fonctionnaire du ministère des Mines, il s'agit de mettre fin à l'anarchie sur ces sites en vue d'une exploitation plus moderne et rentable pour l'État. En février dernier, le gouvernement nigérien a fermé un autre site aurifère dans le Djado à Agadez. En Côte d'Ivoire, suspension de la grève à l'entreprise pétrolière publique Petrosi après 2 semaines d'arrêt de travail contre ce que le syndicat des salariés a qualifié de dépenses incongrues du directeur général, des voyages en jet privé et des contrats farfelus. La direction et les travailleurs sont tombés d'accord sur un plan social en cas de licenciement dans le cadre d'un projet de privatisation. La production pétrolière ivoirienne a doublé l'an dernier pour atteindre 45 000 barils par jour. Vonent Salam Andriam Bololon est la nouvelle ministre des Finances de Madagascar. Sa nomination intervient au lendemain de la démission de Gervais Rakotoarimanan. Pour faute de soutien du gouvernement, il était connu pour sa rigueur budgétaire. Ex-secrétaire général de ce même ministère, Madame Andriam Bololon a également été au cadre à la Banque centrale de Madagascar et la Banque mondiale.
Un peu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
De grandes décisions attendues au symposium de la CAF qui débute aujourd'hui à Rabat.
Tout à fait, décaler la CAN de janvier pour la jouer entre juin et août, maintenir son organisation tous les 2 ans, augmenter le nombre d'équipes qualifiées pour la phase finale jusqu'à 32. Ce sont là, entre autres, les points saillants de ce symposium. La nouvelle équipe dirigeante de la CAF parle de révolution. Pour en savoir davantage, nous avons joint Sita Sangaré, président de la Fédération Burkinabé de football et membre de la commission CAN à la CAF.
Beaucoup de joueurs ont bravé leur club pour venir et après leur CAN ont vu leur carrière stopper net. Tout simplement parce que la CAN se déroule généralement vers janvier, février, en plein championnat européen.
Président, je suis le passage des équipes de 16 à 32.
Nous avons 54 fédérations en Afrique, donc c'est un peu justice que d'accroître un peu le nombre. Mais à croître dans des proportions raisonnables.
On maintient la CAN pour chaque 2 ans?
Oui, parce que la Coupe d'Afrique, c'est un événement important pour le continent. C'est bon pour nos États, je peux peut-être rester calé sur la publicité des deux.
Sita Sangaré, joint à Rabat.
La folle saison d'Al Ahly.
C'est hallucinant, le club historique égyptien a couronné sa saison hier en remportant le derby du Caire face au rival de toujours, le Zamalek, battu 2-0. Une rencontre qui conclut une saison époustouflante. Quelques chiffres, le national affiche 34 rencontres, 25 victoires, 9 matchs nuls et 0 défaite. Les hommes d'Ossam Al-Badri ont inscrit 62 buts contre 14 encaissés pour un total de 84 points. Au classement, il devance Misr Makaza de 10 points et le Zamalek 3e à 18 points. Et Al Ahly a l'occasion de faire le doublé championnat Ligue des champions. Le club est en quart de finale de la compétition continentale.
Et dénouement également du championnat au Gabon et le CF Mounana encore champion.
Oui, s'il a pour l'instant du mal sur la scène continentale, le CF Mounana a été sacré champion de la saison 2016-2017. Pour la seconde année consécutive et représentera donc le pays en Ligue des champions. Lors de la dernière journée, Mounana s'est adjugé le titre en venant à bout 1-0 de l'Olympique de Mandji. Il devient ainsi le second club à remporter le titre national 2 saisons de suite après Mangasport.
La Russie surprend l'Italie et la Mannschaft tenue en échec à l'Euro féminin aux Pays-Bas.
Oui, victoire des Russes sur les Italiennes 2-1 lors de la 2e journée. Elles prennent du même coup la tête du groupe B. L'Allemagne, l'une des grandes favorites pour conserver son titre, a été tenue en échec 0-0 par la Suède.
Et victoire in extremis de Michael Matthews à l'étape du jour du Tour de France.
L'Australien s'est imposé lors de la 16e étape après examen de la photo finish du sprint à l'arrivée. Il a devancé le Norvégien Edvald Boasson Hagen. Le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune de leader à la veille de la première étape dans les Alpes.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Diriek, deuxième partie d'émission Les Dossiers du Jour. Au Congo, les élections législatives et locales de dimanche ont été caractérisées, selon la société civile, par un fort taux d'abstention. Une cinquantaine d'observateurs de la commission de l'Union africaine, conduite par l'ancien premier ministre malien Diongo Sissoko, y ont assisté. Pour en parler, John Lindon a joint à Brazzaville Éloge Nzobo, coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et des développements.
Le principal constat qu'on peut retenir de cette échéance, c'est la grande abstention. C'est en fait la sanction silencieuse des citoyens qui ont refusé massivement d'abord d'aller voter parce qu'il y a eu un taux d'abstention très fort et qui est dû au fait que ce scrutin n'était pas le bienvenu. Ce n'était pas le moment d'organiser ces élections dans ces conditions que vit le Congo aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de questions qui devaient être réglées au préalable, en amont. Il y a la question de la gouvernance électorale, il y a la question de la crise dans le pôle, et la question des prisonniers politiques, qui sont autant de situations qui n'ont pas permis justement aux citoyens d'adhérer à ce processus, puisqu'il y a beaucoup de déficits en matière de démocratie.
Ce fort taux d'abstention dont vous parlez est certainement le résultat du mot d'ordre de boycott qui avait été lancé par une certaine partie de l'opposition. Est-ce qu'à votre avis, la politique de la chaise vide, ça paye?
Non, la politique de la chaise vide ne paye pas. Nous, en tant que société civile, nous n'avons pas, parce que nous sommes membres de la campagne Tournant la page, nous avons été très clairs, nous n'avons pas appelé au boycott, mais nous avons demandé à ce que le gouvernement reporte ces élections et règle d'abord ces problèmes en amont. Et je pense que les citoyens ne sont pas dupes. Ils n'ont pas besoin d'attendre un quelconque mot d'ordre pour comprendre que ce processus électoral est biaisé d'avance.
Toujours est-il qu'au terme de ces élections, des résultats seront proclamés et ceux qui ont obtenu le vote vont siéger.
Bien, effectivement, puisque le processus est engagé, mais c'est dommage parce que les questions restent toujours pendantes. On ne règle pas de problème.
Une mission d'observateur de l'Union africaine séjourne dans votre pays en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de sa présence sur le terrain par rapport à ces élections?
Je n'ai pas été contacté par ces observateurs de l'Union africaine. J'attends d'attendre leur rapport, de lire leur rapport pour réagir. Parce que nous sommes habitués à ces rapports de complaisance qui sont publiés par certains observateurs. Mais nous espérons que cette fois-ci, l'Union africaine va présenter un rapport objectif.
Éloge Nzobo, coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et des développements.
À votre avis, ce soir, à 18h, en temps universel sur VOA Afrique, regard sur les élections législatives et locales de dimanche au Congo-Brazzaville qui ont connu le taux d'abstention le plus élevé jamais observé dans l'histoire du pays. Le FOCAD, Front Républicain, et une soixantaine d'associations de la société civile avaient appelé au boycott. Que pensez-vous de cette stratégie de l'opposition et de la société civile? À qui va profiter cette politique de la chaise vide? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez au 001 202 205 26 33. Vous serez en compagnie d'Eric Manirakiza sur VOA Afrique.
C'est par un communiqué conjoint des gouvernements burkinabé et ivoirien que s'est achevé cet après-midi à Ouagadougou le 6e traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, sous la houlette des présidents Alassane Ouattara et Roch Kabore. Dans la capitale burkinabé, d'importantes décisions ont été prises pour déterminer de nouveaux axes de développement et accélérer la mise en œuvre de chantiers déjà entamés. De Ouagadougou, les détails avec notre correspondant Issa Napon.
Plusieurs dossiers étaient alors du jour pour ce 6e traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. 24 accords, dont 11 nouveaux, ont été passés à l'issue d'un conseil des ministres conjoints entre les deux gouvernements. Cette 6e rencontre au sommet porte différents projets d'envergure, dont le plus emblématique sont entre autres l'appui énergétique et supplémentaire de la Côte d'Ivoire demandé par la partie burkinabé. Quand on sait la problématique de l'électricité au Burkina Faso, avec un passé récent fait de coupures quotidiennes d'électricité, le travail auquel s'attelle avec son homologue ivoirien, le ministre burkinabé en charge de l'énergie, en est des plus attendus. Le professeur Alpha Omar.
avoir dit ça.
Après ce sixième TAC, la puissance donc fournie par la Côte d'Ivoire Burkina va être amenée donc à 90 MW au lieu de 80 qu'on avait déjà. Mais on est en train de discuter également pour voir après donc la réhabilitation d'une liaison qui doit arriver à Firkesulgo pour voir si nous pourrons arriver à 100 MW voire au-delà. Si nous devons prendre en compte le besoin des mines, également le besoin des ménages et partant de là les bâtiments publics et autres, nous devrons être autour de 700 MW.
La construction d'un pipeline énergétique entre les deux pays et des projets économiques de défense et de sécurité ont été entérinés. Il en est de même pour la libre circulation des biens et des personnes, mais aussi la question cruciale de l'amélioration du réseau routier et ferroviaire, notamment la très attendue autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, dont la partie ivoirienne est bien avancée sur sa partition, rassure Amédée Koffi Kouakou, il est ministre ivoirien en charge des infrastructures économiques.
Le Premier ministre de Côte d'Ivoire a lancé il y a environ deux mois les travaux du tronçon Yamoussoukro-Tchibissou, environ une quarantaine de kilomètres. Nous sommes en train de faire le bouclage financier pour faire Tchibissou-Boaké. Et après Boaké, faire que ces deux frontières Burkina, ça va continuer. Mais vous savez que ce sont des montants importants qui sont à mobiliser. Sur le corridor déjà de Tchibissou jusqu'à la frontière du Burkina, c'est un peu plus de 1000 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser.
Le Burkina Faso n'est pas en reste, même si ce chantier tarde encore à démarrer, regrette son homologue burkinabé en charge des infrastructures, le ministre Eric Boukouma.
Cette sixième session va connaître une décision importante qui a été prise par le gouvernement burkinabé d'accélérer la mise en œuvre de ce projet qui, comme vous le savez, dans sa première section entre Ouagadougou et Koudougou, longue de 110 km, sera mise en œuvre à travers le mécanisme du partenariat public-privé. Une nouvelle procédure accélérée afin de sélectionner le partenaire privé. Donc dans les 6 mois, nous serons en mesure de vous donner un planning précis.
Les deux chefs d'État ivoiriens, Burkinabé, Alassane Ouattara et Macky Sakabore, ont ainsi pu défricher et dynamiser un traité d'amitié et de coopération avec 11 accords de plus signés par rapport au précédent acte et à l'issue d'un conseil congé des ministres qui a prouvé l'excellente fraternité entre les deux chefs d'État et leurs peuples liés par l'histoire et la géographie. Issa Napoumouagadougou, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, un jeune chercheur s'engage dans la fourniture d'eau potable. Basé à Labé, à plus de 400 km de Conakry, cet inventeur a fait installer plusieurs centaines de pompes à eau dans son pays. Reportage réalisé à Labé par notre correspondant Zakaria Camara.
Safatou, quartier périphérique de la ville. Ici, avoir de l'eau potable est un rêve pour de nombreuses familles. L'eau qu'on puise dans ce puits étant propre à la consommation. Si nous mettons de l'eau de Javel, ça tue les grenouilles. Après des recherches, Agui Boubari passe d'une maquette aux premières pompes à piston alternatif. C'est la création de fabrication de pompes à Labé, FAPEL.
Nous avons aujourd'hui amélioré beaucoup les conditions de vie de cette population vulnérable par rapport à l'accès à l'eau et surtout les enfants qui parcourent des kilomètres à la recherche de cette denrée très rare.
L'entreprise fabrique deux types de pompes. Une pompe d'irrigation qui peut fournir jusqu'à 3000 litres d'eau par heure. Et l'autre à usage domestique qu'utilise cette mère de famille. Avant, il fallait faire des efforts pour tirer l'eau du puits. Mais depuis que nous avons fait installer cette pompe, notre puits est protégé et nous sommes soulagés. Dans le bureau de l'inventeur, plusieurs reconnaissances, mais aussi des prix, comme celui qu'il a reçu des mains du président français François Hollande à Paris à l'occasion de la France s'engage au Sud, ou encore le coup de cœur du jury de la start-up de l'année au Maroc. Des distinctions qui donnent des ambitions.
Nous avons déjà entamé le processus pour la certification de la pompe sur le plan national. Après la Guinée, c'est les autres pays qui viendront, comme le Niger. J'étais invité tout récemment au Niger pour la présentation au président de la République du Niger, la pompe FAPEL.
Avec plus de 2000 pompes vendues en Guinée, plusieurs autres au Sénégal, en Gambie, en Sierra Leone et au Niger, Aguibou a fait un grand pas, mais n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. De retour de l'abbé, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, la Maison Blanche a affirmé hier que les démocrates s'étaient associés avec l'Ukraine durant la campagne présidentielle l'an dernier. Le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, a réitéré les allégations selon lesquelles un militant du Parti démocrate a rencontré des fonctionnaires de l'ambassade d'Ukraine durant la campagne. S'agit-il d'une contre-attaque suite au scandale de l'ingérence russe dans l'élection américaine ? Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint le professeur de sciences politiques à l'université de Princeton, Leonard Wanchekon.
C'est tout simplement ridicule parce que s'il y avait ce problème, il l'aurait posé avant la fin de la collision avec la Russie. Donc c'est juste une réponse politicienne et à la limite ridicule quoi, à cette accusation de collision avec la Russie. Parce que là, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que ça veut dire que les démocrates ont été chercher des informations chez les Ukrainiens contre Donald Trump et l'ont utilisé contre lui pendant les élections? Ça n'a absolument aucun sens, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une contre-attaque politique, bien entendu, par rapport au scandale de l'ingérence russe dans l'élection américaine?
Oui, ils sont tout simplement désespérés. En fait, ils sont vraiment dans de très mauvais draps par rapport à ce qui s'est passé. Parce que je pense que le plus important, c'est de comprendre que la Russie, c'est un adversaire des États-Unis depuis la guerre froide, peut-être même avant, et que l'idée même quoi, qu'il faut aller chercher des informations chez cet adversaire-là pour combattre son ennemi politique à l'intérieur des États-Unis, c'est criminel à la limite. Et donc ils le savent, c'est pour ça qu'ils se battent par tous les moyens pour pouvoir distraire les gens, quoi. Exactement. Donc ça me ressemble un peu à exactement ce qui s'est passé pendant les élections lorsque Donald Trump avait été accusé de comportement sexiste. Donc le fameux interview où il se vantait donc de harceler les femmes, de courir derrière les femmes, etc. Et puis voilà, au prochain débat, il a fait venir les accusateurs de Bill Clinton. Voilà, donc c'est un peu ce genre d'attitude, ce genre de... Mais je voudrais souhaiter qu'on soit en train de parler d'autres choses en ce moment dans le pays, quoi, plutôt que ce genre d'histoire. C'est difficile à accepter. Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une porte de sortie, finalement, pour la Maison-Blanche suite à cette affaire d'email?
Il n'y a pas de porte de sortie, parce que les faits sont là et têtus. Ils vont essayer de se débattre. Ils vont essayer de se défendre sur le terrain purement légal pour ne pas se faire accuser. Voilà. Moi, je pense que il n'y a rien qui va se passer tant qu'il n'y a pas d'élections et que les électeurs et le public en général désapprouvent ce genre de comportement de façon assez sérieuse, quoi.
Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques à l'université de Princeton.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique, restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel, au menu antenne libre, des sujets débat, RM Show donne la parole à nos auditeurs, en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633, c'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Joselle Morissin, présentation Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.